En attendant que je m'installe, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Philippiens. Et on va terminer l'étude de cette épître aujourd'hui, Philippiens chapitre 4. Et on va lire les versets 10 à 23. Je lis, verset 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donne et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. On arrive à la fin de cet épître. Hein. On se souvient que l'apôtre Paul est en prison et dans des difficultés. Et on a vu un peu que malgré qu'il soit en prison, il a accepté son état, a accepté de rester fort et accepté d'évangéliser. Et là, il arrive, la dernière fois, on avait parlé du monde des pensées. Et puis, il arrive à la fin de cet épître et il va parler un peu du soutien missionnaire. On pourrait le dire comme cela. Il n'y a pas que les missionnaires qu'on peut soutenir, il y a toutes sortes d'œuvres que l'on pourrait soutenir. Mais à ce moment-là, lui était missionnaire. Et l'apôtre Paul est en train d'appeler à la responsabilité de ceux qui soutiennent, mais aussi de ceux qui reçoivent. Parce que souvent, on pense à donner, mais là, on pense qu'il y a une responsabilité. Mais Paul lui-même dit qu'il y a aussi une responsabilité pour celui qui reçoit. Alors la question qu'on peut des fois se poser, alors, je ne sais pas si vous la posez souvent, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec notre argent ? On pense une maison, on pense une voiture, on pense... Je sais que vous en avez trop, des fois, de l'argent. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qui nous reste. Hein. Vous me regardez avec un air dubitatif. Il ne va pas vous en rester beaucoup, j'imagine. Peut-être plus que certains, en tout cas. Mais si on se pose la question, et je pense qu'il faut se poser la question, même si j'en ai pas des tonnes, bah, la Bible nous répond quand même qu'est-ce qu'on doit faire avec notre argent, parfois aussi. Hein. Il y a un tas de domaines dans lesquels on pourrait aussi parler, mais on va plutôt se focaliser là-dessus, de soutenir l'œuvre de Dieu. On va voir trois choses. D'abord, que le rôle de l'Église, justement, c'est d'être missionnaire et de soutenir les missionnaires hein, et les serviteurs qui travaillent. Que, deuxième chose, et c'est Paul qui le dit lui-même, c'est que le missionnaire doit aussi être content avec ce qu'il a. C'est pas toujours simple. Et puis une troisième chose qu'on verra, c'est comment Paul voit ce soutien financier. Il a son argumentation, on pourrait dire. Donc l'Église est censée soutenir ses serviteurs, mais elle doit le faire par amour. On ne va pas soutenir les gens juste parce qu'il faut les soutenir, c'est un peu bête, mais on le fait par amour. Et les Philippiens sont renommés pour cela, justement. Ils renouvellent, comme il dit là l'apôtre Paul, leur don. Ça veut dire qu'il avait déjà fait plus d'une fois, on pense. Ils renouvellent leur don à Paul, et le mot « renouveler » en grec, ça signifie, ça pourrait dire « refleurir ». Quelqu'un disait « ça désigne le bourgeonnement des plantes, souvent après une période d'assoupissement ». On comprend l'idée, c'est qu'ils ont donné à l'apôtre Paul pour un temps, puis un temps est passé, parce qu'il n'en a peut-être pas besoin, ou parce que le Seigneur n'a pas mis à cœur. Puis ça rebourgeonne, ça refleurit, et on redonne de nouveau un petit don à l'apôtre Paul. Et je pense que les Philippiens ont dû faire ça assez régulièrement. Après un temps, ils ont de nouveau renouvelé leur bienfaisance, leur acte d'amour financier, on pourrait dire cela. Donc il y a une espèce de rythme hein, dans le don, pas forcément une fois par an, mais il y a une espèce de rythme, et peut-être, on va voir, en fonction aussi des besoins. Le fait surtout de renouveler, c'est ça qui est intéressant, ça démontre que les Philippiens tendaient l'oreille et savaient ce que Paul avait besoin à ce moment-là. Parce souvent, on peut peut-être donner, puis on s'en fiche du missionnaire, débrouille-toi maintenant, on t'a donné, on a fait notre part, débrouille-toi. Je pense que le don, c'est pas que l'argent, Il y a un suivi aussi de celui qu'on est en train de soutenir financièrement. On cherche à connaître ses besoins. Alors, on ne va pas les deviner. Enfin, moi, je n'ai pas encore ce don-là de deviner ce que vous avez besoin. Donc, je vais poser la question à ce missionnaire. Je vais lui envoyer une carte, je vais lui téléphoner, etc. Mais le fait de soutenir un missionnaire, c'est aussi chercher à connaître ses besoins. Ce n'est pas forcément de l'argent, hein, mais tous ses besoins. On doit le suivre pour pouvoir aider. Sinon, on ne peut pas l'aider efficacement. On peut envoyer une fois de temps en temps, mais ce n'est peut-être pas ça l'idée, en tout cas de l'apôtre Paul, là, du soutien missionnaire. Et Paul va comparer ses dons au sentiment que les Philippiens éprouvent pour lui. Quand il reçoit l'argent, enfin quand il recevait les dons, ce n'est pas forcément l'argent qu'il voyait, mais c'était l'amour fraternel des Philippiens pour lui qui était à ce moment-là en prison. Alors évidemment, l'argent, ça fait du bien, mais il y a une forme de proportionnalité là, quelque part. Hein. Le don était proportionnel à l'amour qu'il portait tout simplement à l'apôtre Paul. Donc quand on donne, le missionnaire ou le serviteur est heureux, mais surtout ce qu'il voit, c'est l'amour qu'on lui porte. Et c'est tellement important, parce que vous n'avez jamais été en prison. J'espère que non. Mais quand on reçoit ce genre de gestes, on va dire, eh bien, ça fait du bien. Et ça permet d'accepter la situation dans laquelle on est. C'est proportionnel donc aussi, et je pense que souvent on l'oublie, à l'intérêt que nous avons par rapport à l'avancement de l'Église. Est-ce que moi, l'Église, ben, elle a qu'à se débrouiller ? Vas-y, hein, c'est le travail du pasteur, ça. Allez, fais ton boulot, et l'Église va peut-être grandir. Je ne pense pas que ça soit comme ça dans la Bible. Mais est-ce que j'ai un intérêt pour que l'Église grandisse à Étréchy, mais dans le monde, en Corée du Nord, en Afrique, ou je ne sais pas ? Ça dépend de mon intérêt aussi. Et le don sera proportionnel à cet intérêt, au mérite, quelque part, que je porte à ce travail-là. Est-ce que vous voulez que l'Église grandisse pas qu'à Étréchy ? Ben, j'espère, sinon on n'a rien compris. Cherchez d'abord le royaume. Hein, et le royaume, il est dans sur toute la terre. Et ce qui est encore plus merveilleux chez ces Philippiens, c'est qu'ils cherchaient même des occasions pour donner des dons. C'est-à-dire qu'ils le faisaient régulièrement, mais ils réfléchissaient à un moment, ils s'arrêtaient et disaient « Tiens, si on pouvait l'aider un peu plus hein. ». Donc ils prenaient le temps de réfléchir dans leur façon de soutenir, d'assister. Ils étaient responsables dans l'Église de ce soutien missionnaire. Ça veut dire qu'ils cherchaient, qu'ils prenaient le temps, peut-être à l'affût dans la prière, je ne sais pas comment ils faisaient, puisqu'ils ne nous donnent pas leur technique, mais ils prenaient le temps pour s'occuper de leurs missionnaires. Ce n'est pas donner l'argent seulement, c'est prier, c'est demander à Dieu qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est communiquer peut-être avec eux. C'est un travail, tout simplement, hein, que de soutenir des missionnaires. Donc Paul, voilà, dans cette première partie, dit que vouloir soutenir par ses dons, c'est aussi savoir chercher. Souvent on pense argent tout le temps quand on dit don, mais je pense qu'il y a aussi le cœur qui doit être là-dedans, la volonté de connaître les besoins, de suivre une personne, de prier évidemment pour cette personne-là, et quelque part forcément ça démontre mon amour pour ce missionnaire-là. Il faut aimer ces missionnaires, même s'ils sont loin, je sais que ce n'est pas toujours évident, on ne les connaît pas forcément, mais c'est tout un travail que de vouloir soutenir un missionnaire. Dans un deuxième temps, il parle du contentement. Paul ne cherche pas les dons parce qu'il dit qu'il est content en toutes circonstances. C'est un peu comme nous. Hein. Quand on a tout, tout va bien. Quand on perd tout, on est heureux. Vous êtes content. Non, vous n'êtes pas content. Ah bon, c'est curieux ça. Pourtant, lui, il est en prison et il est content. Pourquoi nous, on n'est pas content. On est un peu matérialiste peut-être. Hein. Ça doit nous faire réfléchir tout cela. Hein. Paul dit « j'ai appris ». Le verbe « apprendre », ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Pour être content. Je ne pense pas qu'on puisse être content naturellement de rien avoir. Ça ne vient pas comme ça. On apprend. On prend le temps. Et l'apôtre Paul a pris beaucoup de temps pour apprendre, justement, pour, on pourrait dire, presque s'accoutumer à comprendre ce qu'est le contentement. Ah, c'est vrai que quand on perd tout, c'est triste, mais si on n'a vraiment rien pendant un certain temps, on s'habitue. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien et qui vivent très bien, et peut-être même mieux que nous. On est vraiment bien lotis. Mais lui a appris, à travers les épreuves, à travers la prison, à travers la persécution, à être content en toutes circonstances. Être content, c'est être content d'avoir suffisamment pour soi-même, sans besoin, et c'est lui qui le dit, d'être aidé, par exemple, ou d'avoir un support. Paul, à un moment, quand il n'avait rien, qu'est-ce qu'il faisait ? Il travaillait, tout simplement. Et il était content de ce qu'il avait. Être content, c'est vivre indépendamment des circonstances extérieures et des gens. Ce n'est pas ce qui se passe autour de moi qui me rend content. Ce n'est pas parce que j'ai du travail ou pas du travail, que j'ai une grande maison ou pas une grande maison. Ce n'est pas ça qui rend heureux, au fond. C'est ma relation avec Dieu. Alors, c'est facile à dire, vous allez me dire, je je le sais. Hein. Mais c'est, normalement, c'est ça qui devrait me rendre heureux. Dans le ciel, votre maison, elle ne sera pas là. Vous en aurez une bien plus belle. On avait vu ça il y a quelques semaines. Hein. Mais c'est ça, être content. C'est être content de son sort aussi. Ah là là. Mais quand je vois les autres, tout ce qu'ils ont, et moi, dans lequel état je suis, pourquoi moi ? Non, pas comme ça. J'ai comme ça, moi, des fois. Je regarde un peu à droite et à gauche, et c'est pas bien de le faire, en fait, parce que ça sert à rien. Et on regarde le sort des autres, et on regarde le sien, et on compare. Hein, et on compare nos moyens. Mais Paul, lui, était content de son sort, il était content de ses moyens, et ses moyens n'étaient pas énormes. Mais il était heureux comme cela. Alors, heureux, je m'entends, on est bien d'accord, mais il était content. C'est que le mot grec, en fait, c'est « autarkes », ça donnait le nom « autarcie », « vivre en autarcie », je ne sais pas si vous connaissez. Hein. En français, c'est « vivre de ses propres ressources », tout simplement. Paul disait « il est content en toutes circonstances », ça veut dire qu'il était en paix. Il était loin de toutes les futilités, de l'inquiétude, hein, comme il dit en 1 Timothée 6,6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Être content de ce que je possède au moment tout simplement. Il était content en toutes circonstances aussi, hein, dans l'humiliation. Il est un peu maso quand même. Hein. Prison, humilié, vraiment persécuté, qu'il avait faim, qu'il était dans la disette, qu'il était dans la précarité. Il était content. Vous êtes content quand vous avez faim ? C'est un gros mal là-dedans. Hein. Et quand on vous outrage, vous êtes content ? Vous aimez ça quand on vous outrage ? Alors, il n'aimait pas qu'on l'outrage, mais il était content malgré l'humiliation qu'il vivait. Mais il était content aussi dans l'abondance. C'est là, lorsqu'il était rassasié. Alors quand il dit abondance, je ne pense pas qu'il avait 1 million sur son compte. Hein. À mon avis, ça ne devait être pas grand-chose, mais pour lui, c'était déjà de l'abondance par rapport à ce qu'il avait. Il était content aussi dans ces circonstances-là. Pour vivre comme ça, je pense qu'il faut une certaine discipline. Alors, là, le parcours de l'apôtre Paul, là, vraiment discipliné. Et lui-même, il dit qu'il discipline son corps, son esprit, etc. Il faut se discipliner dans l'humiliation, parce que quand on n'a rien, on a envie de dire à Dieu, c'est ta faute, tu fais rien pour moi, t'es injuste, t'es méchant avec moi. Non, mais on est comme ça, hein. On est des êtres humains, on parle à Dieu des fois comme on est, hein. Et c'est sûrement parce qu'on se compare aux autres, hélas. Mais dans l'humiliation, on a souvent ce réflexe-là, plutôt de râler et de ne pas être content. Mais l'apôtre Paul était discipliné pour comprendre que ces circonstances étaient là, pas par hasard, et qu'il devait être là pour travailler pour le Seigneur. Et puis, il avait de la discipline dans l'abondance aussi, parce que quand on a beaucoup, qu'est-ce qui arrive ? On n'a pas besoin de prier Dieu. J'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de lui demander mon pain quotidien, puisque je l'ai tranquillement. Et évidemment, si on n'a pas de discipline, on a tendance à tout doucement oublier de compter sur Dieu. Pas oublier Dieu, mais de compter sur Dieu. Parce qu'on se dit, j'y arrive par moi-même, par mes propres forces. Vous savez, hein, autant l'humiliation que l'abondance peut nous écarter de Dieu. Donc, ne disons pas que parce qu'on est pauvre, j'ai au moins une bonne raison de m'écarter. Non, quand on est riche, on s'écarte aussi vite, même peut-être plus vite, je crois, de Dieu. Mais l'apôtre Paul était discipliné, que ce soit dans l'humiliation ou l'abondance, il était tout simplement content. J'espère qu'un jour, on sera tous contents comme ça, que dimanche, on viendra content. Hein, content le lundi, content le mardi, mercredi j'ai perdu mon boulot, content. Hein, oui, mais ça s'apprend, je crois, avec le Seigneur, ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments, mais ça veut dire qu'on a vu ce qui est le plus important dans notre vie. Hein. Lui vivait d'une façon désintéressée, hein, et il était capable de passer d'une situation extrême à une bonne situation sans que ça lui pose de problème. Je disais tout à l'heure, si demain vous perdez votre boulot ou votre travail, c'est pas très sympa, c'est pas cool en tout cas, hein. Et je pense qu'on sera quand même assez troublé. Mais lui était assez mature pour passer d'une situation à une autre, hein. Je sais plus si c'était un prof qui m'avait dit à l'institut, quelqu'un qui est mûr, c'est quelqu'un qui accepte les situations dans lesquelles il se trouve, quelles qu'elles soient, et qu'on passe d'un extrême à l'autre. Alors, si on passe de la disette à l'abondance, pas de problème. Là, on est tous contents, hein, parce qu'enfin, on sort du marasme financier que l'on a vécu. Mais l'inverse, je ne sais pas si vous l'avez demandé à Dieu un jour de vivre dans la disette pour comprendre ce que c'est, pour être content vraiment. Ça, on ne le fera jamais. C'est moins agréable, c'est vrai. Mais peut-être que ce n'est pas agréable parce qu'on s'accroche à beaucoup, beaucoup de choses inutiles. Je suis désolé de le dire. Il y a beaucoup de choses inutiles qui nous accrochent. Et c'est pour ça souvent qu'on réagit négativement. Si on se disait dans la tête, j'ai vraiment besoin de rien, que je vivais vraiment comme ça, je peux passer d'une situation à une sans aucun problème. Le problème, c'est qu'on pense, et parce qu'on est dans une société de consommation, on pense qu'on a besoin de telle et telle chose. Mais pas lui passer de l'une à l'autre et il était content. Mais s'il était content, c'est surtout parce que son seul objectif à lui, c'était de servir Dieu. Il n'était pas venu sur la terre pour construire sa maison, faire son jardin. Il était venu pour servir Dieu comme apôtre. Et donc, quoi qu'il arrive, quand elle avait les moyens, elle était contente. Quand elle n'avait pas les moyens, elle était contente. Mais le seul truc qui était important pour lui, c'était de servir Dieu. Et quand on a un objectif, forcément tout le reste s'évapore autour de nous. L'important, c'est l'objectif. Et je pense que son désintéressement vient justement avec le service qu'il rendait à Dieu. Il ne vivait pas pour s'enrichir, on l'a dit, il vivait simplement pour que les gens connaissent Dieu. Et il était capable d'aller jusqu'en prison pour cela, de se faire lapider, de souffrir, d'être martyrisé, parce qu'il voulait que les gens connaissent le salut. Et Paul a raison quelque part. Bon, c'est vrai qu'on n'aimerait pas vivre sa vie, mais au fond, quand on va partir, on a passé toute une vie à s'enrichir, on pourrait dire, tout ça pour tout perdre à la fin. C'est un peu bête des fois qu'on y pense. Alors, je sais que pas, vous n'êtes pas millionnaire, ça je le sais, mais même à notre niveau des fois, on prend beaucoup de temps pour mettre beaucoup de choses dans sa maison, dans ce... et à la fin on perd tout. C'est seulement quand on est à la fin qu'on comprend ça, hélas. Peut-être qu'on a le droit de se faire plaisir, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a quand même des choses qui sont essentielles. Parce que Paul savait que de toute façon, il n'emporterait rien avec lui. Et quand il est arrivé là-haut, à mon avis, il a vu sa maison, il a dû dire, j'avais bien raison. Elle est bien plus jolie, ma maison. Et là, c'est pour l'éternité, pas de loyer, pas d'impôt. Pas mal. Eh oui, mais est-ce que nous vivons de cette manière-là, ou est-ce que vraiment le matérialisme est le plus important dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à tout quitter si le Seigneur le décidait demain, comme il a fait avec Job, ou peut-être avec d'autres? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je serai content? Pas évident, hein? C'est pas évident, mais ça s'apprend. Et on se prépare à cela aussi. Et c'est dans ma relation avec Dieu quotidienne que je me prépare. Il ne faut pas attendre le dernier moment, parce qu'alors là, c'est fini. La cause de ce contentement est aussi la personne de Christ. Hein. Il voulait servir, mais c'était Jésus aussi qui le contentait. Est-ce que Jésus me suffit? Non, j'entends pas des oui. Hein. Est-ce que Jésus-Christ me suffit? Est-ce que je suis content simplement d'avoir Jésus-Christ dans ma vie? Parce que si Jésus dans ma vie, toutes les situations peuvent être bravées, pas à cause de mes forces. Hein, comme j'ai dit, si on perd tout du jour au lendemain, en tant qu'homme, je suis désespéré, c'est normal, oui, il y a une inondation. Mais si je puise ma force en Jésus-Christ, les choses vont être différentes. Hein, je serai malheureux de perdre tout ça, mais je sais que j'ai encore Jésus-Christ et il va m'aider. Hein. Toutes circonstances, même dans l'abondance. Et il faut croire que nous maîtrisons les situations parfois. Hein. Quand on a beaucoup d'argent, c'est moi qui travaille, c'est moi qui mets sur le compte en banque. Et je me dis, ben, rigolez, comme je maîtrise bien ma situation. Job disait la même chose. Jour au lendemain, plus rien du tout. Hein. Même plus d'enfants, la famille qui est morte, etc. Est-ce que je maîtrise vraiment ma situation? Moi, je ne le crois pas. C'est l'apparence qu'on a peut-être quand on est dans l'abondance ou quand tout va à peu près bien. Mais quand je crois maîtriser la situation, je n'ai pas besoin de Dieu. Alors, on est chrétien, on sait que Dieu est là, on sait que Dieu prend soin. Mais celui qui compte vraiment sur Dieu, il s'accroche à Dieu, même dans l'abondance. Comme l'apôtre Paul. Hein, parce qu'on oublie très vite Dieu. Il est là-bas. Là-bas, loin, 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 parce que tout va bien. C'est ça le problème, souvent. Et dans l'humiliation, Paul nous rappelle que c'est Jésus qui est le seul à pouvoir le rendre content. Il faut imaginer quand même la prison à ce moment-là, les difficultés de cette prison. Hein, ce n'est pas les prisons françaises qu'on a aujourd'hui. C'était difficile d'être en prison. Il était content, mais pas grâce à sa force, mais grâce à Jésus-Christ qui donne la force. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont prisonniers aujourd'hui dans des circonstances difficiles aussi et qui comptent sur Dieu. Il y a un tas de témoignages comme cela. Et ils n'auraient jamais tenu s'ils ne connaissaient pas la parole, s'ils n'avaient pas connu Jésus-Christ dans leur vie. Si un jour il vous arrive une grosse circonstance difficile, la première chose qu'il faut faire, c'est pas râler. C'est s'accrocher à Jésus-Christ et lui demander son aide. Il nous comprend à ce moment-là et il va nous aider. Et Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout. Tout. Alors, on va pousser le truc loin, hein, très loin. Je peux absolument tout. Parce qu'en fait, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à celui qui me fortifie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous imaginez que vous pouvez tout faire, accepter toutes les circonstances de votre vie à cause de Jésus-Christ. Je me le dis à moi, hein, parce que des fois, je râle aussi. Hein. Mais normalement, on est censé pouvoir tout faire. Le mot fortifier en grec, c'est être fort, rendre robuste, recevoir de la force. C'est pas quelque chose que j'ai en moi, c'est quelque chose que je reçois de la part de Jésus-Christ. Je puise tout en par celui qui me fortifie. Quand ça va mal, le Seigneur veut me donner de la force. Mais est-ce que j'accepte cette force? Si je commence à râler, à dire c'est injuste, je refuse cette force. Mais si j'accepte simplement la situation, alors le Seigneur me donnera une force que je ne soupçonne peut-être pas pour accepter certaines circonstances. C'est Dieu qui donne cette puissance, parce que le mot, en fait, hein, grec de fortifier, ça, c'est un dérivé de puissance. Il dit en fait que Dieu peut donner toute la puissance qu'il faut au moment des circonstances difficiles. À nous, tout simplement, de l'accepter. Il y a donc une force dans le contentement. Quelqu'un qui est content, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort. Souvent, on se dit, on est chrétien, qu'est-ce qu'on est fort, je viens à l'église deux fois par semaine, je prie tous les jours, je lis ma Bible, je suis fort. Puis arrive la disette, et on se rend compte qu'on n'est pas si fort que ça. Mais si je suis content de ma situation, alors je reçois la force de Dieu et je profite de cette force. Ce n'est pas notre chair qui peut nous donner cette force, on pourrait dire, elle vient uniquement de Dieu. Et on en a besoin, absolument. Et tous ceux qui sont martyrisés, qui vont jusqu'au bûcher à l'époque, je ne pense pas qu'ils y allaient avec leur chair. Dieu donne certainement des forces à un moment particulier et dans des circonstances difficiles. Et heureusement que le Seigneur nous assiste, parce que je ne sais pas comment on ferait. Quelle que soit notre situation actuelle, Dieu nous donne la force de vivre content. Vous êtes d'accord? Donc je ne peux vous entendre râler. Et vous ne pouvez plus m'entendre râler non plus, hein. Bon, on va dire qu'on est encore des êtres humains, hein. Mais normalement, quoi qu'il m'arrive, je devrais être content. Je ne suis pas toujours content, hein, j'avoue. J'ai aussi mes combats, il ne faut pas croire. Mais je suis content d'avoir relu Philippiens et de remettre un peu du charbon dans la machine, comme on dit. Puis une troisième chose, on voit comment Paul conçoit, on pourrait dire, là il y aurait énormément de choses à dire, mais comment il conçoit en fait le soutien financier. C'est marrant que ce soit le missionnaire qui dise comment il faut soutenir. Mais pourquoi pas? C'est lui qui a besoin. Il pense d'abord que l'Église doit être solidaire avec ses serviteurs, hein, versets 14 à 16. On voit au verset 14 que les Philippiens prenaient part à la détresse de Paul. Ils s'inquiètent, on l'a dit. Et ils veulent soutenir Paul, justement, dans sa mission. Il y a une espèce de partenariat qui se met en place entre un missionnaire et l'Église, normalement, et ça travaille ensemble. Hein, c'est pas que dans un sens. D'autres églises, par exemple, il dit Paul, n'entrèrent pas en compte. Hein. Ils ne cherchaient pas, en fait, à savoir ce que l'apôtre avait besoin, alors que c'est lui qui a fondé l'Église. Une fois que l'Église est là, l'apôtre, hein, on s'en fiche. Vous connaissez les Corinthiens, hein, ils remettaient même en question l'apostolat de l'apôtre Paul. Donc c'est quand même triste que quelqu'un qui vient construire une Église, la fait grandir, parte, on dise « on s'en fiche de toi ». C'est quand même triste quand on y pense, quelque part. Et peut-être qu'il y a des églises qui cherchent juste à s'enrichir. Les églises qui ont des millions sur leur compte, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir des millions? Il y a besoin de locaux, moi je veux bien 500 000 pour cette église, comme ça on peut l'acheter. Il y a des besoins à droite et à gauche, ça sert à rien de s'enrichir. Hein. Alors, évidemment, il faut être sage, on se comprend bien. Mais quand on arrivera au ciel, à l'église, avec 1 million d'euros sur le compte, qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Et je vous ai donné cet argent, c'est pour faire quelque chose, c'est pas pour le faire fructifier, c'est simplement pour votre gloriole. Je voulais que vous l'utilisiez. Et c'est pareil pour notre argent. Si le Seigneur nous enrichit, alors on s'entend, hein, mais c'est peut-être pour servir aussi tout simplement dans l'agrandissement de ce royaume, de l'Église. L'Église n'est pas là pour s'enrichir, elle est là pour enrichir le monde de l'Église, justement. C'est pas la même chose. Et Paul dit que même dans certains cas, il n'avait pas de salaire, il n'avait rien. Avec tout le travail qu'il faisait, avec tout ce qu'il a accepté dans sa vie, il n'avait des fois rien. Vous êtes prêt à accepter un boulot comme ça? Apôtre, bon, il n'y en a plus aujourd'hui, mais le job, c'est simple, hein, vous êtes apôtre, alors vous allez vous faire martyriser tous les jours, à peu près, vous allez vous faire lapider un peu, tant en temps que vous allez en prison, et bon, ben, le salaire, c'est zéro. Et un volontaire, là hein? Pas courageux, hein, quand même, hein, je trouve. Hein? Mais c'était ça, la vie de l'apôtre Paul. Il y a des moments où il était soutenu, mais il y a des moments où il acceptait, malgré tout, toutes ses difficultés, pour rien. Enfin, pour rien. Je crois qu'il tirait toute sa force et son argent spirituel au travers de Jésus-Christ, on est bien d'accord. Mais quand même. Les Philippiens étaient solidaires dans l'œuvre et la croissance de l'Église. Hein. Il est dit que deux fois, ils avaient déjà soutenu l'apôtre Paul. Certainement qu'ils le feront encore plusieurs fois. Mais on voit là un vrai engagement de l'Église pour soutenir l'apôtre Paul. Alors, je suis content d'être dans une Église où on est aussi engagé. On a 5 missionnaires qu'on soutient, comme on peut. Hein, mais je crois que l'Église qui est missionnaire, qui s'engage vraiment là-dedans, Dieu la bénit. Je suis convaincu. Absolument convaincu. Mais on peut peut-être faire mieux. Si on soutient, on peut peut-être faire mieux, à voir plus tard. Mais il y a un engagement. Et l'Église doit se responsabiliser justement envers ses missionnaires, ses serviteurs. Un jour, le Seigneur nous fera le reproche, c'est ça le problème. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, je ne pense pas à nous parce qu'on le fait. Je ne sais pas si on le fait suffisamment, mais en tout cas, on essaie de le faire avec nos moyens. Mais il y a des églises qui s'en fichent complètement. C'est tellement important. Deuxième chose, deuxième concept, on pourrait dire, de l'apôtre Paul, c'est que l'Église investisse pour l'éternité. Paul, il dit que ce qu'il veut, ce n'est pas forcément le don. Ce qu'il cherche, c'est le fruit qui découle de ce don pour les Philippiens. C'est-à-dire que quand il donne, les Philippiens sont en train d'ajouter au capital, on pourrait dire, si on peut dire comme ça, qu'ils possèdent en Christ. Ils voient en fait la joie que les Philippiens ont de donner. C'est pour eux, ils ont besoin de grandir là-dedans. Et quand ils reçoivent, justement, ils reçoivent l'argent peut-être, mais ils sont contents de voir qu'il y a des chrétiens qui s'investissent dans l'Église et qu'ils donnent, tout simplement. Donc en donnant, finalement, je m'enrichis moi-même, quelque part, et j'enrichis évidemment l'Église, et forcément je réjouis le Seigneur, tout simplement. Paul sait que leurs dons réjouissent Dieu aussi, il le dit, hein, puisqu'ils investissent pour des choses éternelles. On peut investir dans un tas de choses, c'est souvent bien futile. Par contre, l'Église, c'est jamais futile. Alors, il y a des églises, on s'entend bien, je m'entends quand on dit investir dans l'Église pour des choses correctes, hein, et pas pour détourner l'argent, etc., mais pour investir pour que ce royaume grandisse, que des gens aient des Bibles, que des gens entendent parler de l'Évangile. Ça démontre notre solidarité avec l'Église. Parce qu'on a envie qu'elle grandisse, tout simplement. C'est que le lundi matin, la question que vous dites, c'est pas forcément j'ai envie que l'Église grandisse. Je pense à mon patron, je pense à mon boulot, je pense à là où je vais aller. Mais de temps en temps, ça serait bien de s'arrêter et de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie que l'Église grandisse ? À Étréchy, par exemple. Est-ce que je suis prêt à prier régulièrement qu'elle grandisse ? C'est pas pour notre gloriole, hein, c'est pas ça qui est important. C'est pour que des gens acceptent Jésus dans leur vie. Les gens reviennent à l'Église aussi, tout simplement. Est-ce que c'est mon désir ou... Pasteur, c'est ton boulot. Hein ? Non, je ne peux pas faire les choses seules, moi. C'est notre boulot à tous. Troisième concept, que l'Église soutienne pour être agréable à Dieu. Et il dit que, enfin, l'apôtre dit qu'il est comblé. Hein ? Il est en prison, moi. Je suis comblé. Il est fou, cet apôtre. Mais il dit, j'ai tout reçu. Hein ? On pourrait dire, autrement, j'ai en main. En fait, c'était un langage technique signifiant que l'on a reçu une somme et que l'on a donné un reçu. Hein, vous donnez le don et vous signez le reçu, et vous dites « j'ai tout reçu, je suis comblé, tout simplement, de ce que les Philippiens m'ont donné. » Et à cause de ces dons, on ne sait pas combien il y avait, mais l'apôtre Paul était dans l'abondance, en tout cas c'est comme ça qu'il le voyait, même si je pense qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais il accueille ces dons comme s'ils venaient de Dieu. Et ça c'est intéressant ce qu'il dit là, parce que c'est comme une offrande agréable hein, devant Dieu. Il les accepte comme si ça venait de Dieu. Et peut-être des fois, on ne reçoit rien, on dit c'est Dieu qui doit faire, mais non, non. Quand ton frère a faim, ne dis pas je vais prier pour lui, aide-le, financièrement, matériellement, si tu peux le faire. Des fois, on se dit mais pourquoi Dieu ne fait rien ? Mais Dieu, il est là, il regarde, c'est vous qui devez le faire, c'est pas moi. Alors moi, je vais vous aider à pouvoir le faire, mais c'est à vous de vous y mettre. Et l'apôtre Paul recevait justement ses dons comme venant de Dieu. Il reconnaissait évidemment que c'est les Philippiens qui l'avaient fait, mais il remerciait Dieu. Et quatrième concept, que l'Église sache que Dieu pourvoira à ses besoins. Hein, souvent, on sort le portefeuille, on commence à calculer ce qui me reste à la fin, et ça fait mal, des fois. Mais Malachie 3.10, il est dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. » Alors là, on est encore dans l'Ancien Testament, mais bon. « Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » On ne peut pas connaître ça si on ne donne pas d'abord. Ce n'est pas possible, hein, parce que c'est compter simplement sur toi, sur soi. Il ne s'agit pas de se ruiner, on est bien d'accord, il y a d'autres principes dans le Nouveau Testament qui disent que si je n'ai rien, je n'ai pas à donner non plus. Il y a des principes sages, je crois, dans la parole. Mais de temps en temps, un acte de foi. Parce que pour moi, c'est ça l'offrande ou le don qu'on peut faire à un missionnaire. C'est un acte de foi. Je donne quelque chose que j'aurais bien gardé, mais c'est pour Dieu. Et je fais confiance à Dieu, parce que c'est ce qu'il dit là, que lui va s'occuper ensuite de moi. Il ne s'agit pas de se ruiner, on est d'accord. Mais quand même, à un moment, est-ce que j'ai assez de foi pour oser, des fois, aller un peu plus loin que ce que je veux bien faire ? En sachant qu'au fond, Dieu va pourvoir à mes besoins personnels, mais aussi aux besoins de l'Église. Vous savez, si on donne l'offrande sans cet acte de foi, je ne sais pas si c'est vraiment l'offrande, pleinement. On redonne à Dieu ce qu'il m'a d'abord donné. Vous avez de la chance d'avoir un travail. Tout le monde ne l'a pas, forcément. Mais c'est Dieu qui me l'a donné. Alors, vous avez fait vos recherches. Mais Dieu aurait pu dire non. Il aurait pu fermer la porte. Il n'arrête pas de me fermer des portes en ce moment. Il me dit, pourquoi moi ? Mais voilà. Mais c'est un acte de foi, tout simplement. Et Dieu rendra selon sa richesse, dit l'apôtre Paul. Est-ce que Dieu est riche ?
Oui.
Je crois qu'il faudrait inventer un mot, en fait, par rapport à ce que Dieu peut donner à quelqu'un et faire sur cette terre. Hein. Mais il va rendre selon sa richesse. C'est quand même mieux de recevoir de Dieu que du banquier. Évidemment, il ne donne pas grand-chose au banquier, hein, mais bon. Mais Dieu est incommensurablement riche. Il peut tout faire. Et au moment T où j'en ai vraiment besoin, il peut faire même un miracle. C'est formidable, quand même. Hein. Mais à condition, évidemment, que moi, je mette ma main à la pâte aussi. Hein. Et il dit, il le fera aussi avec gloire, parce que sur cette terre, on va peut-être donner, on va peut-être un peu serrer la ceinture de temps en temps, parce qu'on a envie que l'Église grandisse. Mais quand on sera dans l'éternité, on va récolter avec abondance. Hein. Le 40 mètres carrés ou les 100 mètres carrés de maison qu'on peut avoir, ça va être une nouvelle terre, avec des nouveaux cieux, avec de l'or, comme on a vu avec Rémi la dernière fois, avec des diamants, avec... enfin, quelque chose d'absolument formidable. Franchement, en regardant notre petite maison, et ça, c'est quoi le mieux ? Vous hésitez encore, hein ? Oui, vous voyez, on est matérialiste, hein, c'est ça le problème. On hésite, mais quand on sera là-haut, on va dire, oh purée, si j'avais su, si j'avais pris le temps de comprendre vraiment que finalement, ben, le Seigneur va nous bénir éternellement et richement, justement. Le don pour le royaume, donc, est l'investissement le plus sûr. Le plus sûr. Vous pouvez mettre sur la bourse, vous risquez de perdre. Vous allez gagner un peu, beaucoup, pour ceux qui ont de la chance. Mais vous ne savez jamais comment ça finit. Par contre, quand on investit pour le Seigneur, c'est 100% de bénéf. À tous les coups. Alors, vous n'avez pas récolté l'argent, mais il y a la gloire. Et qui sait ce que le Seigneur va donner comme récompense aussi là-haut dans le ciel. Mais c'est l'investissement le plus sûr qui peut exister sur la terre. Et en plus, c'est un investissement qui est agréable à Dieu. Hein, des fois, on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire à Dieu pour lui plaire ? Aller à l'église. Bon, ça, c'est, je sais pas si... Oui, ça lui plaît qu'on soit là, évidemment. Mais il y a peut-être des fois aussi ce genre de choses qui peuvent faire plaisir à Dieu. Et qui a un parfum d'une bonne odeur, comme il dit. Hein. C'est comme à l'époque des sacrifices, Dieu agréait parfaitement ce don ou ce sacrifice qu'on faisait à ce moment-là. Et quand on sait que Dieu est heureux, on est heureux, hein ? Ouais, vous n'avez pas l'heureux, hein ? Et puis il finit par une doxologie, hein, c'est une formule de louange qu'il a souvent l'habitude de faire à la fin des épîtres pour rendre gloire à Dieu. Et finalement, la conclusion de cette épître, de toutes les souffrances, de la prison, etc., c'est que toute la gloire revienne à Dieu, hein. De ce que nous donnons, de ce que lui reçoit, mais tout cela vient tout simplement de Dieu. Et il salue toutes les personnes, hein, ceux de la maison de César, c'est peut-être ceux qui venaient l'aider de temps en temps en prison, ou qu'il avait évangélisé à ce moment-là, on ne sait pas très bien. Mais réalisons aujourd'hui, et au travers de Paul, mais peut-être d'exemples qu'on a aussi dans notre cœur, que beaucoup de missionnaires souffrent, et sont prêts à souffrir, à accepter la disette, parfois à la prison, parfois à la mort même, parce qu'ils ont à cœur que l'Évangile avance et que des gens soient sauvés. Mais il faut prendre le temps de réaliser cela. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, je me souviens quand je disais les missionnaires en Afrique, pour évangéliser, ils ont tout perdu, leur famille, tout, et leur vie au bout. Et aujourd'hui, il y a des églises grâce à eux. Il faut quand même prendre le temps de réfléchir à cela. Alors c'est aussi Dieu qui donne la force, on n'est pas tous appelés à faire ça, je suis sûr, mais quand même... Et Dieu nous demande justement d'être à l'affût des besoins de ces gens-là. On ne peut pas tous soutenir, mais il y a beaucoup d'églises dans le monde qui peuvent justement soutenir tous ces missionnaires. Et pour montrer notre amour, je suis sûr que le missionnaire qu'on soutient, et là, la petite carte qu'on va leur envoyer, ça va leur faire du bien. Ce n'est pas forcément de l'argent, mais c'est le fait qu'ils savent qu'on pense à eux. On était chez Joël Chiron en Bulgarie, c'est ce qui lui manque, que des gens pensent à lui. Vous savez, hein, français, tout ça, dans Bulgarie, c'est pas drôle, hein. Là, il fait hyper froid. Mais le fait qu'on pense à eux, ça leur fait énormément de bien. C'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent. Mais c'est juste une pensée, un coup de fil, etc. Le don, c'est donner, hein, comme le contentement, c'est recevoir. Autant celui qui donne doit le faire, autant celui qui reçoit doit être content de ce qu'il reçoit de la part du Seigneur Jésus-Christ, soit beaucoup ou pas beaucoup. Et Paul était content, quelles que soient les circonstances. Le don est un ministère, enfin le fait de donner un ministère de l'Église. Hein. On pense à beaucoup de choses, mais on oublie souvent ce domaine-là, tout simplement parce qu'on veut que l'Église grandisse et parce qu'on veut réjouir tout simplement Dieu aussi. Quand même. Dieu sait ce que nous faisons avec notre argent. Église, indépendamment. Il sait ce qu'on fait avec. Hein. Quelqu'un qui disait, quand on donne l'offrande, Dieu ne regarde pas ce qu'on donne, il regarde ce qu'on garde pour soi. Oui, souvent c'est le cas. Mais Dieu sait ce qu'on bâtit avec notre argent et un jour, il faudra rendre compte de tout cela. Alors, on dit c'est loin, ça peut être demain, on ne sait pas. Alors, on n'est pas de ces églises qui mettent la pression pour l'argent, c'est pas ce que je suis en train de faire là, on a bien compris, vous le savez. Mais il faut que ça soit, et on le fait déjà, mais il faut que ça soit quelque chose de fort dans l'église, qu'on s'en souvienne, qu'on soit des gens qui soutiennent par la prière, par le don et par peut-être d'autres manières, tous ces missionnaires qui travaillent pour le Seigneur et qui risquent gros des fois, qui souffrent, pas tous, mais beaucoup quand même, acceptent cela. Que l'apôtre Paul nous inspire un petit peu et que le Seigneur nous aide dans ce domaine. On va prier. Seigneur, merci pour l'exemple de l'apôtre Paul qui nous démontre comment on peut être content en toutes circonstances et même dans des circonstances très difficiles. Sachant qu'il avait cet apostolat qui n'est pas comme nous forcément, mais Seigneur, il nous montre ce contentement et je te prie de nous aider à être contents de ce que tu nous donnes chaque jour. Nous ne sommes pas évidemment missionnaires, mais nous sommes tes disciples et nous sommes aussi tes serviteurs et nous voulons accepter ta manière de nous donner chaque jour. Mais nous voulons aussi devenir une église missionnaire parce que nous avons à cœur que ton évangile puisse être proclamé partout dans le monde, parce que nous voulons que les gens soient sauvés, Seigneur, et cela nous tient fortement à cœur. Et pour cela, évidemment, il faut envoyer des serviteurs, il faut des ouvriers, il faut des missionnaires. Et je te prie de nous aider à avoir les moyens, justement, de soutenir ceux qui font ce travail tous les jours, qu'ils soient aussi contents de leur côté, Seigneur, et qu'ils travaillent aussi fidèlement pour toi, Seigneur. Mais que ce soit une pensée dans notre cœur, mais aussi dans le cœur de cette Église. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.